épisode 61. Cette semaine, je serai seul. J'ai pris l'initiative d'enregistrer un épisode seul. D'ailleurs, étant donné la quantité assez phénoménale de nouvelles de sécurité qui ont eu lieu dans la dernière semaine, je vais commencer par les HMS Plug et j'en prête aussi l'occasion de corriger deux erreurs qui se sont glissées dans les épisodes précédents. C'est-à-dire que QuebecSec n'est pas le 28 septembre, mais le 27 septembre, et où je vais présenter sur l'architecture d'entreprise. Et ISACA ne présente pas la gouvernance et la gestion des TI cette semaine, va la présenter le 10 octobre. Et ensuite, ils ont un autre événement le 16 octobre, qui est les défis et les opportunités de l'intelligence artificielle. Le Hackfest, qui est le 2-3 novembre prochain, incluant une flopée de belles formations en sécurité pour ceux qui veulent se faire la main sur des choses très intéressantes. Le 22-23 janvier 2019, le FIC à Lille, dans lequel je vais probablement manger de la poutine avec Damien. Et finalement, le 8 avril, un événement organisé par Québec Numérique, qui est le Sécur, qui se veut une nouvelle plateforme pour que on puisse y regrouper l'ensemble de l'offre de conférences en sécurité à Québec. Alors, commençons avec les nouvelles. La première, le département de la défense américaine vient de diffuser un document sur la stratégie cyber, en tout cas la cyber command, c'est stratégie Enabling Cyber Command More Freedom of Action, qui s'adresse seulement à organiser les efforts de l'armée américaine pour l'aider à structurer son offre, le structurer sa façon d'approcher la menace cyber maintenant, et dans lequel ils vont outiller, entre autres ça, vont mettre beaucoup d'emphase sur la protection des infrastructures locales, dont l'électricité et toutes les autres infrastructures critiques, et ainsi inclure aussi un volet qui va inciter les défenses et ses partenaires à utiliser des solutions off-the-shelf, des solutions commerciales, ce qui normalement, en général, dans ces grandes entités-là, ils vont plus tendance à utiliser des solutions développées maison. Mais dans ce cas-ci, dans un point de vue d'économie, de les aider à rattraper tout le retard qu'ils ont accumulé durant les dernières années, de procéder de cette façon-là pour être un élément facilitant et les aider à mieux atteindre leur mission de défensive au niveau des territoires américains d'un point de vue cyber. Également, dans le même ordre d'idée, la Maison-Blanche a mis à jour sa stratégie sur le cyber, qui est essentiellement plusieurs piliers qui sont énoncés par la branche exécutive, donc le président, pour améliorer la posture de sur le cyber au point de vue américain. Le document, il est très complet, couvre beaucoup d'aspects, et dont, entre autres, l'aspect sur l'ingérence étrangère dans les différents éléments dans lesquels on voit dans l'actualité. Mais cela dit, un renforcement de la point de vue civil et national, de la stratégie américaine qui va les aider à mieux se positionner et à mieux défendre leurs intérêts nationaux. Je crois que, en tout cas, aux États-Unis, ça aurait beaucoup d'effet chez la part des entreprises et les citoyens. En tant que pays autre, on serait mieux de... valide de s'inspirer de ce genre de document-là parce qu'il se base sur des grands piliers avec des actions, avec ça. La structure est géniale, le contenu, il est en général sur la coche, donc c'est très bien qu'on puisse, dans une entreprise et au gouvernement, dans tous les pays du gouvernement au Canada et en Europe, tant que ça aussi, s'inspire de ce genre de document-là pour améliorer la posture, pour améliorer peut-être une meilleure défense de nos intérêts d'occidentaux, en tout cas de notre style, notre mode de vie, sans nécessairement vouloir l'imposer aux autres, mais au moins défendre le nôtre. Donc, c'est des éléments très, très intéressants à aborder dans ce document-là, que je vous incite à lire au complet. J'en ai lu, je l'ai survolé, puis la densité est incroyable et très intéressante. Le Sénat américain fait face à un défi dans lequel ils veulent introduire une nouvelle législation qui va permettre de mieux protéger les courriels ou les adresses courriels des membres du Sénat. Cette pièce législative-là apparaît suite à un incident où certains sénateurs ou leur personnel ont été victimes d'attaques, mais pas sur leur compte courriel de corporatif, mais leur compte courriel personnel, qui sont des mesures généralement qui permettent d'escalader, de pivoter jusqu'au compte corporatif de la personne. Et un peu l'état de cet élément-là, c'est que ça démontre une fois de plus et encore peut-être plus fort ce coup-ci que la frontière entre le travail et le personnel est de plus en plus faible. Donc, le fait de protéger les actifs corporatifs est une chose, mais s'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de conséquences sur les habitudes personnelles des gens, ces habitudes-là vont amener les gens à avoir de mauvaises habitudes. Et donc, un et l'autre sont finalement de plus en plus communicants comme modèle. Les entreprises le constatent. Le gère peut-être pas nécessairement très bien non plus, dans lequel il y a des cloisons impénétrables sur le fait de entre le modèle corporatif et le modèle personnel, mais tôt ou tard, les entreprises devront admettre qu'ils vont avoir un effort à faire pour protéger aussi leurs employés et tous leurs actifs personnels et à la maison. Donc, peut-être un certain point de réflexion de ce côté-là, puis en faisant cette réflexion-là, bien, ça va amener peut-être une meilleure intégration ou d'arrêter de voir comme les médias sociaux ou tous les services nuagiques comme étant des éléments du diable dans lesquels on parle de contrôle surtout, quand dans les faits, c'est pas tout à fait ça, et de mieux l'encadrer et non de ne pas juste laisser ça au hasard comme c'est fait actuellement. Autre nouvelle, le créateur de Mirai a négocié un deal avec le FBI pour un peu s'échapper de la prison dans laquelle il aurait dû faire normalement. Cette nouvelle-là est très ambiguë parce que, en tout cas, me rend très inconfortant dans un sens où, pendant très très longtemps, et encore maintenant d'ailleurs, j'ai toujours plaidé de ne pas prendre la voie du pirater et ensuite se faire valoir qu'on est bon et d'avoir un emploi par ça. Puis on est plusieurs dans le milieu qui ne veut pas encourager cette facette-là des choses dans lesquelles si tu fais quelque chose de mal, ben subis les conséquences. C'est pas une question de démonstration de tes talents. Tu peux faire des démonstrations de tes talents de façon à ce que ça ne vienne pas poser des gestes illégaux. Dans ce cas-ci, les gestes illégaux, il a été reconnu coupable ainsi de suite, mais le fait, c'est-à-dire que ça va inciter des gens à poser des actes légaux pour, dans l'espoir de travailler pour le FBI plus tard, donc de sauver un peu des conséquences de leurs gestes. Ça l'envoie un drôle de message, puis en même temps, tout ce qu'il fait ultimement, c'est de devenir une taupe dans ces environnements-là, donc il n'est même pas, en tout cas, a priori embauché pour ses capacités techniques, mais juste pour les contacts qu'il a développés dans le milieu, donc en plus, il devient une cible potentielle qui va être ultimement brûlée quand tout ça va être connu et diffusé au grand jour de façon plus large. Donc, je sais pas, c'est pas, ça me rend pas nécessairement confortable, ce genre de deal-là, dans ce cas-là. Mais ça, j'imagine qu'ils ont dû réfléchir longuement avant de prendre cette décision-là. Autre nouvelle, il y a des traces du spyware Pegasus qui est de plus en plus apparente à travers le monde. C'est le Citizen Lab, une fondation qui est au Canada, qui a analysé la propagation de ce spyware-là au niveau du monde. Selon eux, ils ont détecté la présence dans 45 pays distincts et souvent dans des pays qui ont une mauvaise réputation au niveau des protections du droit de l'homme, mais ça n'empêche pas qu'on le retrouve aussi en Amérique du Nord ou en Europe, par exemple, dans lequel le logiciel est utilisé pour piéger des gens avec un URL fictif ou en tout cas de type phishing pour amener les gens à cliquer et se faire installer sur leur téléphone le fameux spyware qui ensuite permet à ces entreprises-là ou ces gouvernements-là de déployer des énergies pour surveiller ces gens-là. Donc, c'est un peu inconfortable. On constate vraiment que le modèle de surveillance de la population et ainsi de suite a changé. Et on est rendu avec des modèles qui s'adaptent finalement avec les téléphones intelligents et ainsi de suite. Dans un contexte où, en tout cas comme citoyen occidental, on est dans un pays, dans un régime démocratique dans lequel il faut un certain nombre de chemins légaux pour amener à l'autorisation aux autorités de venir soit espionner mon téléphone ou mon relevé téléphonique pour, dans le cas d'une enquête qui généralement est légitime puisqu'elle a été passée toutes les étapes normales. Donc, là, dans une mesure où il y a un équilibre de cette nature-là, c'est confortable, ça va, c'est correct. Dans un contexte où c'est des entreprises ou des agences gouvernementales qui font ça en cachette, qui font ça en dessous, cette situation-là est un peu plus inconfortable. Puis, c'est une tendance qui est peut-être un peu trop grande ou en tout cas trop apparente maintenant qui utilisent des moyens détournés finalement pour arriver à leur fin, qui viennent briser un peu toutes nos assises de protection de l'individu et ainsi de suite. Donc, il y a un lieu, un espace à réfléchir là-dessus. Et d'ailleurs, le très long rapport de Citizen Lab est tout à fait excellent. Ils vont très loin dans leur recherche et expliquent comment ils ont réussi à obtenir leurs affaires puis comment ils ont divulgué les différents éléments. Puis c'est vraiment chouette. Là, c'est une très belle lecture dans son ensemble, mais ça demeure très inconfortable. Et finalement, dernière nouvelle, l'inspecteur général pour le système de santé américain a soumis un rapport sur le fait que la cybersécurité a beaucoup changé dans les cyberperiphériques ont beaucoup changé dans les 10 dernières années, dans lesquelles maintenant les éléments sont beaucoup plus connectés, il y a beaucoup plus de menaces qui sont exposées à ces différents périphériques-là. Maintenant, les implants dans le corps aussi, on est capable de faire différents éléments. Les règles qui suivent ou les réglementations qui encadrent ce genre de choses-là n'ont pas suivi la vitesse de développement de ce milieu-là. Donc, à ce moment-là, les différentes compagnies n'ont pas obligé de se soumettre à des vérifications de sécurité de leurs équipements avant de les commercialiser. Ils ne vont seulement que se conformer à à un régime médical ou de vérification de la fiabilité médicale de l'équipement et non de la fiabilité et sécurité. Et ce rapport-là, qui est aussi très intéressant parce qu'il amène beaucoup une réflexion très complète et qui quand même est capable de relater sur le fait d'où on part et où on veut aller. Donc, avec toute la cohérence que c'est d'amener d'amener les institutions à faire un changement réglementaire pour obliger maintenant les compagnies à se conformer à un minimum, si on veut, de sécurité dans les équipements dans lesquels sont déployés dans nos corps. Donc, c'est une bonne chose qui se réveille. C'est un peu tard parce qu'il y a eu quand même beaucoup de démonstrations à quel point tout ça n'était pas très sécuritaire, que c'était toujours la commercialisation indépendamment du risque à lequel on exposait les gens qui prédominaient. Comme dans la plupart des domaines, de façon où la sécurité a été manquante, dont la vitesse sur le marché était plus importante que la sécurité des gens qui consomment les 10 services. Dans ce cas-ci, ça a un incidence sur la santé et la sécurité des gens, donc c'est encore beaucoup plus flagrant. Mais à certains égards, tout le monde des TO s'est bâti sur le fait que on n'avait pas besoin de se préoccuper de la sécurité et mettre les efforts minimaux. Donc, c'est un peu un reflet de cette culture-là où on ne fait pas attention à l'information qui est traitée par les systèmes et on repose sur le fait qu'on ne regarde pas du tout. Donc, ça fait le tour des nouvelles que j'ai trouvées le plus intéressantes dans la dernière semaine. Cette semaine, il devrait y avoir également un segment technique qui devrait être diffusé. Donc, restez à l'affût. Normalement, ce sera jeudi. Et on se revoit la semaine prochaine.